Bonjour, bienvenue au Braque Show. Bonjour Bruno.
Bonjour Eric, ça va bien?
Bonjour. Aujourd'hui, on a une invitée pour la deuxième fois. On a Étienne Tremblay qui est avec nous aujourd'hui.
Salut les gars.
Salut,
Salut, ça
ça
va
va
bien
bien?
Oui, ça va.
Étienne, toi aujourd'hui, tu viens nous parler d'un petit peu des nouveautés, des choses qui se passent dans TFS. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, c'est où tu travailles puis qu'est-ce que tu fais.
Ben écoute, moi, ça fait 3 ans et demi, pas loin de 4 maintenant que je travaille chez Imaginet. Imaginet, c'est une boîte qui fait du ALM, donc du Application Lifecycle Management, fait aussi du développement sur mesure et puis du SharePoint, un peu de tout. Mais moi, de façon générale, je suis un expert ALM. Je suis MVP sur Team System, d'où tu m'as fait venir un
Ça
peu
fait
pour parler de
plus de
ça.
10 ans, même, je
Ça
pense.
fait 10 ans, là. Cette année,
Ça
c'était la
fait
10e
10 ans.
année. Et puis, ben, le produit existe depuis 10 ans. Fait que c'est depuis la première année que le produit existe.
Tu as
Et
contribué beaucoup en donnant ton feedback à ce que ça a l'air
absolument, j'ai
aujourd'hui.
beaucoup contribué au changement là, de où est-ce qu'ils sont rendus. Puis aussi, cette année, donc le mois passé, en fait, j'ai été nominé aussi comme directeur régional Microsoft, qui est un peu la même chose que les MVP, mais plus d'un côté business. Donc, encore une fois, on travaille pas chez les MVP, on travaille pas chez Microsoft. Les RD non plus, ils travaillent pas chez Microsoft. Donc, c'est plus un titre honorifique que tu reçois pour ton implication dans la communauté, puis un peu là, les prouesses techniques qu'on a, puis les prouesses de business. Parce que en tant que directeur général, c'est plus d'aller chercher, par exemple, parler aux CIO, CXO d'entreprise, puis essayer de les envoyer sur le cloud, là, puis tout ça.
Faciliter
Donc,
l'adoption des produits Microsoft de façon
exactement. Ce
générale.
qu'on fait comme MVP aussi, mais MVP, c'est plus technique, là. Tu sais, on fait plus. Tandis que les directeurs généraux, c'est un petit peu plus comme. Tu vas un petit peu plus haut, là. Tu sais, tu parles pas vraiment juste aux développeurs, tu
On
parles
parle aux
aux
chargés de
managers,
projet, au
puis. À ceux
management.
qui
Et...
prennent les décisions dans la compagnie.
Exactement. OK.
Super.
Donc, là, Étienne, dans le fond, on veut parler de Team System. Moi, je pense, par exemple, à un développeur qui commence ou tu sais, qui n'a pas encore de gestion de source dans son entreprise, qui veut partir, veut explorer Team System. Toi, dans le fond, tu vas nous montrer le point de départ qui est dans la création d'un compte. On va y aller
Exact.
avec la première étape, là.
Fait que là, on va juste mettre en contexte. Il y a deux versions de Team System, ou TFS, si vous voulez. Il y a une version qui est on-premise, puis il y a une version qui est dans le cloud. Okay? La version on-premise, bien, ça te prend un serveur. Il faut que tu l'installes, faut que tu configures, faut que tu maintiennes, tu mettes à jour, mettre la nouvelle version, tout ça. Okay? Microsoft met à jour à tous les 3 mois, il y a une nouvelle version, il y a un update pour la version courante qui est actuellement déployée. Ça, c'est on-premise. La version cloud, elle s'appelle VSTS, Visual Studio Team Services. Cette version-là, elle est donc, comme je disais, elle est cloud et elle est mise à jour à toutes les 3 semaines. Donc, Microsoft font des sprints de 3 semaines, puis ils mettent des nouveaux features direct dans le cloud. Donc, si on veut avoir les dernières nouveautés toujours, on est mieux dans le cloud. Puis, évidemment, dans le cloud, bien, on n'a pas de machine.
Pas besoin de
On n'a
maintenir.
rien à maintenir, tout est là, ça se met à jour tout seul, puis on s'en sert. Donc, la première chose à savoir, c'est que si on est un développeur, puis on est là, bien, OK, installer des serveurs, ça m'apparaît lourd, machin. J'aimerais ça aller dans le cloud, mais là, ça va coûter cher, machin. Je vais aller sur GitHub, parce que c'est gratos, machin. Bon, bien, écoute, on peut bien aller sur GitHub, c'est bien correct, mais l'avantage qu'on a si on va dans VSTS, c'est qu'on a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, à travers la présentation, je vais vous montrer les fonctionnalités qu'il y a. Donc, qu'est-ce qu'on a pour. On a une version gratuite pour 5 usagers. Donc, quand on s'en va sur le cloud, on arrive sur visualstudio.com. Donc, tout le monde ne peut pas tout
C'est le point de
aller.
départ.
C'est le point de départ, visualstudio.com. Puis là, ça dit Free Visual Studio. Bon, je vais cliquer sur Free Visual Studio. Là, il nous dit, ben, on a la version communauté, on a la version TFS, puis on a Visual Studio Code, qui sont 3 offerings, dans le fond, qui sont gratuits. La version communauté de Visual Studio, dans le fond, c'est la même chose que la version pro. Mais on est limité sur qu'est-ce qu'on peut faire avec. On peut faire du open source, mais si on commence à faire des affaires pour des clients payants, là, il faut acheter la version
Mais la
pro.
limitation est juste une limitation légale parce que tous les plugins, tous les add-ons, les extensions
Exact.
fonctionnent comme la version pro.
Tout à fait. C'est vraiment un you-là que tu signes. Tu dis,
Exact.
je ne ferai pas de ci, mais tu as toutes les fonctionnalités de pro dans la version communauté. La version code, super bon, excellent produit, mais je me sers de ça pour déboguer mon PowerShell maintenant. Je fais tout là-dedans. Tout ce que je peux partir vite, vite, là, puis faire une patente, je le fais là-dedans parce que Veux, veux pas, Visual Studio, c'est lourd.
C'est lourd.
C'est lourd.
Mm-hmm. Donc, ça, c'est, veut... c'est comme le Notepad++ des gens...
De... Exactement. Puis c'est un peu mieux parce que là, tu as un paquet de plugins que tu peux intégrer
puis
aussi.
Puis tu les proposes puis... en plus, les plugins, ouais. Si tu arrives au fichier que tu trouves que tu as une extension que tu n'as jamais ouverte, puis il va dire, tu veux-tu installer l'extension pour des
exact.
Points JS?
Exact. Ou... C'est très, très bien fait. Puis c'est mis à jour à tous les mois. Ça change beaucoup. Puis j'aime bien. C'est quelque chose qui est très utile. Donc là, on va avoir ici, ça dit « Free Account ». Donc, free account, on va se créer un free account.
Parfait.
Donc, on va se rendre sur le site de démarrage. Puis là, il nous dit, bien, OK, il faut que je pique un nom. Fait que je n'ai pas grand-chose à faire. Pick a memorable name. Donc, on va l'appeler Bracket Show, par exemple. Bracket Show, parce que je ne veux pas voler ton nom que peut-être que tu vas vouloir avoir. Donc, je vais l'appeler 2017. Pour qu'ensuite, je peux le déliter si je veux. Là. C'est juste parce que, tu sais, peut-être que tu voudrais te faire un Visual Studio pour le Bracket Show, mm-hmm. pour mettre votre code de vos affaires. Donc, je ne veux quand même pas te le voler. Donc, ici, on peut voir que juste en démarrant, on a le choix. Est-ce qu'on veut utiliser Git ou est-ce qu'on veut utiliser le mode plus classique de Visual Studio Team Foundation Control?
Microsoft a l'air à favoriser l'utilisation de Git et c'est la version par défaut qu'il te propose. Mm-hmm.
Si tu parles à la gang de Microsoft, puis là, on regarderait le URL en haut ici, là. Il y a toutes sortes de chiffres puis de gugus en haut ici. Là. Ils font ce qu'on appelle du A-B testing. Du A-B testing, c'est 80% du trafic, ça va être comme ça. Puis 20% du trafic, ça va être avec l'autre.
OK.
Okay? Puis après ça, qu'est-ce qu'ils disent? Si moi, j'arrive sur le site puis c'est comme ça, puis moi, je fais ça, puis je fais next, eux, ça leur donne une affaire qui dit « Ah, oh, il y a plus de monde qui aime Git. » Parce qu'ils ont changé de
volontairement
okay. d'un à l'autre. Même chose à l'inverse, OK? Mais ça leur donne de la télémétrie, dans le fond, pour savoir est-ce que... Puis là, évidemment, si la majorité du monde maintenant prennent Git, bien, ils vont donner cette option-là pour démarrer. Mmh. D'où le, peut-être le 80-20. Mmh. Je ne sais pas s'ils font ça pour cette page-là, mais je sais qu'ils font ça pour beaucoup d'affaires,
chose, ouais.
OK, pour voir comment ça marche. Donc, on n'a pas vraiment d'autres choses à faire à part... ça va être hosté dans la Central Region chez Microsoft. Donc, on va lui dire « Go ». Donc, comme vous avez vu, ça n'a pas pris beaucoup de temps. On est maintenant rendu dans « My first project ». Donc, moi, je suis un nouveau, là. Puis ça m'arrive ici, ça me donne... Mon premier projet est déjà créé. J'aime pas le nom. On aurait pu mettre dans l'écran principal, on aurait pu changer puis dire qu'on ne veut pas ce nom-là, on va en faire un nouveau. Fait que là, essentiellement, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau projet. Pour faire ça, je vais cliquer sur le petit bouton dans le coin. Là, je suis comme la page d'accueil de ma collection qui a comme toutes les affaires. Donc, mon tenant actuellement, ça s'appelle « Bracket Show 2017 ». C'est ça qu'on a créé. Donc là, je suis comme ça, c'est ma collection par défaut. Tous mes projets sont là-dessus. Donc, je vois que j'ai un projet, my first project, que, ultimement, on pourra enlever si ça ne nous intéresse
pas. C'est ton TFS project, en fait.
C'est ça. Là, c'est comme un projet. Parce que quand tu es dans TFS, tu as le tenant, donc Bracket Show 2017. Puis là-dedans, on peut avoir autant de projets qu'on veut.
Ouais.
OK? Puis chaque projet peut être différent. Donc, on va en créer un pour le vrai, puis on va choisir des paramètres. Tu avais une question?
Bien, c'était un peu, je pense que tu viens de répondre, mais c'est ça, on n'a pas de limite au niveau du nombre de projets.
Non.
Donc, vraiment toujours dans l'optique qu'on reste dans quelque chose qui ne nous coûte rien du tout. On peut faire le nombre de projets qu'on veut.
Tout à fait. Fait que là, regarde, pour répondre à ta question, je vais aller dans la petite gear ici. Il y a une affaire qui s'appelle User. Puis quand on va dans la petite gear, on voit qu'actuellement, dans mon tenant, j'ai un usager. Donc, cet usager-là, il peut aller dans tous les projets. Je peux en faire autant que je veux. J'ai un maximum de 5 gratuits.
Qui est marqué à droite.
Gratuits, OK, mm-hmm. qui sont là, qui s'appellent Basic. Mais après ça, je peux en acheter d'autres.
Okay.
OK. Donc, si j'ai une grosse équipe, puis on est 20, mettons,
bien,
les
5 projets.
Non, les 5 premiers vont être gratuits, puis après ça, on peut attacher ce compte-là à notre compte Azure, par exemple, puis après ça, acheter des usagers. Là, ils nous coûtent, dépendamment là, de ce qu'on choisit, mettons, la version Pro, c'est 25 $ par mois par usager de plus. Ouais. Puis si on prend la version Enterprise, bien, c'est 56 $ par mois. Tu sais, ne prenez pas l'argent
mais on peut
aller sur le site puis le trouver là. Mais la version Enterprise elle vaut un peu plus cher par mois puis la version Pro elle vaut un peu moins cher puis une version test aussi là qui varie dans les coûts. Donc on n'est pas barré après notre 5. T'sais, on commence à 5 puis là tout d'un coup c'est un startup puis là hop là on est rendu 20 ben ah oh, shit faut tout recommencer. Non. OK, on est correct ici. Donc je vais retourner sur mon tenant dans la page d'accueil où on était. Puis là je vais créer un nouveau projet. Donc notre projet, on va l'appeler Bracket Show. C'est notre premier projet, mm-hmm. on va l'appeler de même. Notre tenant, puis notre projet, on essaie de pas que ce soit le même nom. OK? Parce qu'il y a des histoires, des fois, la collection puis le projet qui ont le même nom. Puis
tu te mélanges un peu plus.
C'est ça. Tu essaies de pas les mettre de même. Là, on peut donner une description. c'est quoi le projet, puis tout ça, on ne le fera pas. Puis là, vous vous souvenez tantôt, quand j'ai créé mon premier projet, il me demandait est-ce que je voulais faire avec Git ou avec TFS. Donc ici, j'ai encore, par projet, j'ai encore le choix de dire est-ce que je veux avoir Git ou TFS dans le fond. Puis, dépendamment de celui que je choisis, je peux enabler l'autre dans le même projet. Donc, je pourrais avoir des repos Git puis TFS VC dans le même projet.
Okay.
Mais ils ne se voient pas. C'est pas la même source. C'est vraiment deux technologies différentes.
Mais ils peuvent cohabiter.
Oui. Donc, je peux pas, tu sais, si je fais un check-in en Git ou un push en Git, bien, j'y ai pas modifié dans mon TFS VC. Là. Puis c'est la même affaire si je fais un check-in dans TFS VC.
Mais c'est la même chose comme en local. Tu peux avoir dans ton même répertoire ton projet associé à un projet Git ou un projet, mettons SVN ou même TFS. Puis c'est le même.
C'est ça, c'est le même code, c'est exactement. Donc, on va garder Git encore. Mm-hmm. Puis ici, la dernière chose, c'est qu'on peut choisir le type de projet qu'on veut. Puis le type de projet qu'on veut, ça va déterminer les items de travail qu'on a, qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, si on prend Agile, bien, nos requis, ça va être des user stories. Okay? Mm-hmm. Si on prend Scrum, nos requis, ça va être des PBI. Okay? Donc, vous autres, vous faites beaucoup plus de Scrum. Donc, quand je vous parle de PBI, ça vous parle plus. Ouais. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont un user story pour eux autres. C'est « Ah oui, oui, je sais quoi ça. » Si on prend CMMI, c'est comme le plus gros process template. Puis là, on utilise des requirements. Ça, c'est vraiment un requis. Mais dans CMMI, tu as des change requests. Tu as des affaires qui sont plus dans un mode waterfall, là, si vous voulez. Mais on peut faire de l'agile avec CMMI pareil. C'est juste que ça a un petit peu plus de lourdeur, si on veut. Okay? Donc, dans notre cas, notre premier projet, on va prendre Scrum, on est chez Pixis quand même, on va faire ça. Okay. Et puis, on va faire Create. Donc, créer un projet, encore une fois, c'est vraiment pas très long. Il va nous amener dans notre nouveau espace perso, aussitôt que ça va être terminé, ici. Puis là, on voit que si on veut cloner notre repo de départ, on peut tout de suite le cloner en partant. Moi, ce que je vais faire pour le besoin de la cause, on va importer un repo qui vient de GitHub. Okay? Donc, ça pourrait tout être aussi bien un repo qu'on a sur notre poste. Donc, je pourrais cloner ça sur mon poste vide, pogner un autre repo Git que juste mon poste ailleurs, le foutre dedans, puis après ça, push à mon remote, mon nouveau remote, qui serait lui. Okay? Mais je peux aussi dire, ah, j'ai de quoi dans GitHub que j'aimerais amener ici. Je pourrais le laisser dans GitHub, partir des builds, faire des affaires dans GitHub, puis dire, mon source, il est dans GitHub, va le chercher, fais ton build. Mais ici, quand tout est à la même place, bien là, on peut attacher des systèmes de travail quand on fait des check-ins. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires là, qu'on peut faire.
Ça, c'est un clone. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, c'est comme si tu le clonais en local. C'est pas comme si tu faisais un fork de GitHub. C'est vraiment un clone.
C'est vraiment un clone. C'est pas un fork.
OK. Effectivement. Donc, tu es capable quand même après ça aussi, même de resynchroniser tes changements avec ton GitHub à partir de ton projet TFS?
Faudrait que tu ajoutes un remote.
Okay.
À ton clone que tu vas faire avec ce projet ici,
pour
le réattacher à GitHub, puis là, tu pourrais faire tes pushes sur les deux, là, dépendamment de ce que tu veux faire. Okay? Donc là, je vais taper le nom de mon GitHub ici, github.com/darkwarrior. Puis je prends celui-là. Juste pour que vous le sachiez, là, c'est quand Microsoft a fait le départ, le like sharing 360. Quand Microsoft a fait le show pour expliquer le nouveau Visual Studio 2017, c'était Donovan Brown qui a fait la démo sur DevOps, tout ça.
Okay.
Lui, il avait. C'est un peu une portion de sa démo là, que je fais. Là.
C'est un projet un peu flagship.
C'est un projet flagship, c'est ça, qui est un système de gestion des basics. Mais dans le fond, ce projet-là particulièrement, je pense qu'il est juste. C'est un site web bien ordinaire pour se donner un baseline là, pour partir. Okay? Donc là, je vais vous expliquer un petit peu. Et on arrive ici. Okay? Donc là, on est dans notre projet qui s'appelle Bracket Show. On a un dashboard avec des affaires qu'on pourrait parler dessus. Aujourd'hui, on ne parlera pas de ça. Je vous montre la section code. Donc, dans la section code, on a notre repo Git avec nos fichiers, notre historique, nos branches, nos pull requests. On pourrait créer des nouvelles pull requests. On pourrait manager nos repositories, là, la sécurité, qui a le droit d'accéder, puis bon, toutes ces choses-là.
Quand je vois pull request, je pense tout de suite à Code Review. Oui. J'imagine qu'il y a un outil de Code Review intégré avec tout ça.
Il y a un outil de pull request super élevé, le meilleur sur le marché. OK, vraiment, là, Microsoft met énormément... Non, mais ouais. je fais un peu des farces, mais ouais. Microsoft met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur l'expérience pull request. OK? Donc, évidemment, on le sait que quand on fait un pull request, c'est parce qu'on s'est fait une branche à côté, on a fait des check-ins dans notre branche, puis on aimerait ramener ça sur master. OK? Au même titre qu'un fork, dans le fond, qu'on aurait fait un fork, puis on veut le ramener sur l'autre. Donc, l'expérience ici est faite vraiment pour le repo principal, donc le master, puis des branches. Okay. Donc, j'aurai des branches, puis je vais les ramener vers master. Donc, les pull requests dans ça, là, c'est ça l'expérience. Donc, parce que le VSTS puis TFS, à la limite, ne supporte pas encore les forks. Okay? Donc, on ne peut pas se faire un fork puis après ça faire le pull request. Mais à la limite...
Mais entre deux branches, c'est l'équivalent.
Ça revient au même fonctionnement.
C'est la même chose. Okay? Donc, on veut que le monde travaille dans un feature branch ou quelque chose. Puis éventuellement, quand ils veulent aller vers le master, ben là, ils vont créer un pull request. Mais aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas le but de vous montrer les pull requests.
Non,
là,
mais c'est le fun de voir que ça existe.
C'est ça, ça existe tout ça. Donc, évidemment, ici, on peut aller sur n'importe quel des fichiers. On peut cliquer dessus, puis on peut le voir, là, c'est quoi qu'il y a dans ce fichier-là. On peut le downloader sur notre poste, on peut pas le checker out, on peut pas le commencer à le modifier puis faire un add dans Git, tout ça. C'est un fichier sur le web, OK? Ouais. Par contre, je peux l'éditer, ce qui est un peu bizarre, parce que là, tu dis, tu peux éditer. Fait que là, il y a un éditeur de code web, mais quand je fais un check-in, ben, ou quand je fais un commit, dans le fond, là, il est commité comme direct dans le repo, là, parce que je suis en train...
Il commit tes push en même temps.
Oui, parce que là, t'es comme là, t'as pas ben le choix, là, tiens. Ouais. Fait que faut faire un peu attention à ce qu'on fait. D'un point de vue historique, ben, on voit... je voulais pas cliquer là-dessus. On voit c'est Donovan là, qui a fait le add là, à ce moment-là. On peut chercher des dates, là, de différentes affaires. On peut comparer... deux versions ensemble. Donc, on a tout ça sur le web. Donc, là, vous allez me dire, ouais, ben, comme moi, je veux faire ça dans Visual Studio, là, je suis pas vraiment intéressé à faire ça là. Puis vous avez bien raison, là. Mais ça nous donne quand même rapidement, on peut comme voir des affaires, tout ça, puis dire, ça nous intéresse. On peut aussi ajouter des commentaires. On peut faire une annotation sur le fichier, puis là, toute l'équipe peut voir l'annotation, tout ça. Puis tout le mode d'annotation, puis de back and forth des pull requests, c'est l'expérience pull request est vraiment intéressante. T'as un suivi de quasiment
qui a répondu.
C'est ça, puis qu'est-ce qui est arrivé.
Tu peux répondre à une réponse.
Exactement, puis tu peux le modifier, puis le recheckiner, puis recommitter, puis faire toutes les affaires
vraiment
que tu as besoin
de faire. Vraiment, du review renforcé, puis ça met l'emphase là-dessus.
Oui, puis tu peux même mettre des politiques. Donc, tu peux dire, tu peux pas, le pull request ne marchera pas à moins que tu aies fait un build sur cette branche-là, puis que le build est successful. Là, je vais laisser passer le pull request. Tu peux y dire, tu peux pas check-iner, le pull request ne sera pas complet si tu n'as pas associé un thème de travail après. Donc, tu sais, il y a des politiques là, que tu peux enabler.
Mais c'est des politiques qui existaient un petit peu avant aussi dans TFS.
Absolument. Mais là, ils les ont mis, au lieu de les mettre sur, je veux faire un check-in dans TFS, ils les ont mis sur quand tu veux vraiment remettre sur master, qui est dans le fond là que tu veux être sur.
C'est le dernier moment responsable. Là,
exactement. Exactement. Donc, évidemment, on a l'historique ici de toutes les affaires qui sont arrivées sur le site. On a les branches, si on en avait. On va avoir master, parce qu'il y a juste master, dans le fond. Puis, l'expérience que je parlais pour le request, là, je prends faire un new. Là, tu vois les miennes, ceux qui sont actifs, ceux qui sont complétés, ceux qui sont abandonnés, là, bon, tout ça. Donc, on a un peu là, toute l'expérience développeur, dans le fond, là. Puis on voit nos repos ici, puis on peut choisir un repo, puis si on en avait plusieurs. Donc, ça vous indique aussi que dans Bracket Show, par exemple, dans ce projet-là, je pourrais avoir multi-repo Git aussi. Mm-hmm. Okay? Ça supporte ça aussi. Mm-hmm. Okay?
Bon, là, Étienne, on a vu un peu comment importer un projet, avoir du code dans TFS. Là, ce qu'on voudrait faire rendu là, ce serait probablement de builder ça, puis d'avoir un petit peu d'intégration continue autour de tout ça. Là.
Un build? Wow! Hey, là, tu sais, je sais pas, mais les développeurs, généralement, ils font un check-in, puis après ça, c'est pas leur problème.
C'est mon problème.
C'est mon problème.
Le code est rendu similitude. Ouais,
exactement. Ça. Donc là, évidemment, tout le monde entend parler de CI/CD, DevOps, machin, tout ça. C'est dur, OK? Ben, c'est dur.
Compliqué.
Fait qu'on va vous montrer comment dur que c'est. Ouais. Fait que là, l'idée, c'est quand tu arrives ici, VSTS, TFS, il nous tient par la main. OK? Sûrement, dans le coin à droite, il y a un petit bouton qui dit « Setup Build
». Ben oui.
OK? Parce qu'il dit « Ah, ben, tu as du code, mais peut-être que tu aimerais savoir un build. » Fait que, ben, moi, je vais cliquer sur le Python. Tu sais, pas me casser trop le basic, ça dit « Go ». Fait que là, ça dit « Ah, ben là, tu aimerais ça faire un build. Tu aimerais ça faire un build de quoi? » Fait que là, ben, on peut voir là, que j'ai toutes sortes d'affaires. Je peux faire des builds Android, des builds Ant, des builds ASP.NET, des affaires Service Fabric, Gradle, Jenkins, Maven, bon, etc., etc. Xamarin, puis tout. Ah ouais, OK?
Ouais.
Fait qu'on a toutes sortes de builds. Puis l'intérêt aussi, c'est que, ben quand on va prendre, tantôt, je vais parler des agents de build. Microsoft, quand on se crée un nouveau site comme ça, évidemment, on veut faire des builds, mais on, c'est où qu'ils sont? Ils roulent où les builds? Ben, Microsoft a une plateforme hostée que dans le fond, il hydrate une VM avec Visual Studio, puis tous l'agent installé dessus. Puis après ça, il envoie le build. Puis quand c'est fini, il détruit la machine. OK? Donc, ils font quasiment un snapshot. Font ton affaire, puis ils enlèvent le snapshot. Okay? Okay. Fait que là, tu recommences toujours à neuf. Fait que là, ben s'il y a tous ces choix-là, ça veut dire que leur environnement hosté pour builder, tu peux tout faire ça dessus. Okay? Fait que tu n'as pas besoin d'avoir un Mac pour builder du Xcode. Tu n'as pas besoin, tu sais, ça supporte tout.
Okay. Ça, c'est peut-être un gros avantage, justement, avec le fait, en plus, que depuis un peu plus qu'un an, Xamarin est gratuit avec Visual Studio, mais c'est pas tout le monde, nécessairement, qui a un Mac chez eux.
Exact.
Là, ça a l'air un peu plus accessible.
Bien, t'arrives là, puis tout est là pour toi. Il t'offrirait pas ça, puis il dit, « Ah, excuse, il faut t'installer une patente, puis t'as... »
Faut t'aider un Mac chez vous,
puis c'est ça, faut pouvoir faire ça, OK? Donc, tout est disponible pour nous. Donc, l'application qu'on a importée tout à l'heure de notre ami Donovan, c'est une application ASP.NET,
okay.
OK? Donc, je vais prendre ASP.NET. Pourquoi je prends un choix, puis je prends pas Visual Studio, par exemple?
Ouais.
Bien, ASP.NET, ce qu'il va faire, il va nous mettre « out of the box » des tâches qu'on va discuter dans quelques secondes, qui sont faites vraiment pour builder un site web. Je vais vous montrer l'affaire. Quand on choisirait Visual Studio, il nous mettrait le minimum pour builder une solution Visual Studio. Mais là, pour faire du ASP.NET, il faudrait qu'on rajoute des petites affaires pour...
On peut penser au Publish, par exemple.
Exact, les Publish Profiles, ces choses-là. Okay. Donc là, en choisissant ASP.NET, il va le faire pour nous. Parce que pourquoi qu'on se casserait le bessic?
C'est compliqué, là. Il faut que ça soit compliqué.
Donc, j'ai fait Next. J'ai choisi ASP.NET, j'ai fait Next. Puis là, on voit ici qu'on a le choix de prendre notre repo git bracket show qu'on a ici, qui est par défaut, évidemment. Il nous met, il nous dit, je veux builder la branche master. J'en ai juste une branche parce qu'on n'a pas joué avec. Si j'avais plusieurs branches, je pourrais créer un build pour la branche de feature 1, feature 2.
Ouais.
Puis je la choisirais ici. OK? Le défaut, ben dans quel folder? Parce que les builds, on peut créer des folders pour nos définitions de build, pour les grouper ensemble. Donc, on pourrait créer des sous-folders. Actuellement, on le laisse au root, donc on s'en sert pas. Puis, je parlais tantôt de la liste des agents qu'on va utiliser pour builder. Donc, par défaut, il nous met hosted parce qu'on est dans le cloud, on a fait new project, puis on est ici, ça fait 5 minutes qu'on travaille. Donc, évidemment, on n'a pas un build server chez nous, puis on veut tout connecter ça.
Mais on pourrait en avoir un.
Exactement. Par contre, si je veux, puis j'ai une machine chez nous qui a plein de patentes d'installer, puis mon build, il faut qu'il fasse des affaires super
compliquées. Des librairies third party que je vais être
exactement.
Sûr que c'est moi qui contrôle.
Évidemment, ils ne seront pas sur le hosted build server. Hein? Fait que là, est-ce qu'on peut faire ça? Absolument. On installe un agent et puis on le connecte à notre compte VSTS. Puis là, VSTS, on va choisir une nouvelle queue d'agents qui va être locale, mettons.
Mm-hmm.
Puis là, VSTS, lui, il va dire, « Ah, OK, ben go, je m'en vais local. » Puis la manière que ça marche, les agents, c'est que c'est l'agent qui demande pour un build, OK, qui demande l'information. C'est pas VSTS qui l'envoie. Donc, on peut installer notre agent sur n'importe quelle machine. Il passe par le port 80.
D'un point de vue firewall, c'est beaucoup plus facile à configurer.
Il passe par le port 80 ou 443 parce qu'on peut dire notre agent est en HTTPS, mais that's it. C'est juste ça qu'on a besoin d'ouvrir. On n'a pas besoin d'ouvrir aucun autre port.
Ouais.
Fait que là, l'agent, lui, il attend. Puis il dit J'ai-tu de quoi faire? Puis là, hop, ah, j'ai de quoi faire. Là, il prend puis il part. Fait que généralement, quand on va créer un nouveau build tantôt, vous allez voir, il y a comme un petit délai qui est comme, ben j'attends que l'agent, il me poke, là, puis qu'il me demande. Puis là, il se parle, puis là, il envoie. Puis là, il fait la job, OK? Donc, vous voyez aussi qu'on peut choisir GitHub. Donc, j'aurais pu créer un nouveau build, mais dire, mon source, il n'est pas dans TFS, il est dans GitHub. Fait que va le chercher dans GitHub, compile-les, fais-moi un build, puis le source, il est là-bas.
Cool.
OK? Je pourrais avoir un remote Git repository, Bitbucket, mettons, ou une autre place dans
n'importe quelle implémentation de Git, même hosté local, si elle est disponible sur l'Internet.
Tout à fait. Qui serait pas TFS. Là, ouais. OK? Puis, évidemment, Subversion, si on est encore sur Subversion, on pourrait aller chercher notre code dans Subversion. Donc, on voit que Microsoft, ils ont mis beaucoup d'emphase sur le fait que si vous êtes chez nous, ça va être bien mieux. Mais si vous n'êtes pas chez nous, ça va marcher pareil.
C'est ça.
OK? Puis ça, c'est un gros changement.
C'est un gros shift. Les Microsoft ont ouvert beaucoup leur approche vers l'open source, vers les autres.
Absolument. Puis ça, écoute, tu n'aurais jamais entendu parler ou même vu ça il y a même 5 ans. Là.
Okay? C'est notre ami Satya qui a amené ça chez Microsoft.
Exactement. Donc, moi, je vais juste dire create, parce que pourquoi pas. Là, on arrive dans notre définition de build. OK? On va la voir.
À date, en à peu près 2 clics, grosso modo. T'as comme fait, t'as simplifié la complexité de construire un build complet, là.
Ah, absolument. Là, le build, moi, là, je ferais rien, là. Je ferais save là-dessus, puis je ferais queue, là, puis ça build. J'ai rien à faire. Là, je vais vous expliquer les portions, là. Mais essentiellement, si je n'avais pas à vous parler, là, en 5 minutes, ce serait fini, là. J'aurais rien à faire, là. OK? Là, évidemment, chaque personne est un petit peu différent. Ils veulent rajouter des gugus, bon, des affaires. Fait que là, on va un peu parler, là, de qu'est-ce qu'on a. Fait que là, par défaut, ce qu'ils nous donnent, c'est ça. OK? La manière que le build, il fonctionne maintenant, si vous avez utilisé les builds XAML de TFS avant, là, ça, c'était ardu, OK? Il fallait être dans Visual Studio, puis on avait un template, puis là, il fallait choisir les bonnes affaires. Puis s'il fallait que tu changes, là, attache ta tuque, là. Changer du XAML, là,
Je me
c'était.
rappelle d'avoir vu de tes présentations où tu en parlais en long,
Ouais,
en large.
ouais, ouais, c'était solide.
C'était, oui,
c'était
solide. Un bon 2 heures de présentation juste pour parler de ça.
Oh, yeah. Fait que là, comme on peut voir maintenant, je suis sur un site web, donc je ne suis pas dans Visual Studio. Je n'ai pas besoin de Visual Studio du tout pour faire des builds. Vous avez remarqué, je n'ai pas même parti Visual Studio depuis tantôt. Ouais. Donc, tout ce que je fais, je suis dans le cloud, là. Je suis dans la web. Okay? Donc, la manière que ça fonctionne, ça marche avec des...
Tu parles de la web, mais tu aurais la même expérience que ça si tu avais un TFS on-premise.
Ça serait identique.
Sauf que ça serait...
Pareil, pareil, pareil. Le URL, ce ne serait pas Bracket Show 2017, ce serait ton URL local, mais les écrans sont pareils, tout est pareil. La version TFS 2017 Update 1, là, elle est c'est ça.
C'est là.
C'est ça. Fait que le plus proche que tu es du dernier TFS qui est sorti, le plus proche que ça a l'air du cloud. OK? Ouais. Fait que oui, effectivement, moi, il y a du monde qui me demande, ouais, mais là, ça a l'air super hot, le cloud, puis tout, mais là, on a tout ça on-premise. Moi, je suis une poignée ce TFS on-premise. Bien, c'est correct. T'as-tu mis à jour ton TFS? Ah, on est sur 2013, whatever, tu sais. Bien, mets-toi à jour. C'est correct, là, tu sais. Mets-toi à jour. Quand tu vas être avec la dernière version on-prem, puis l'upgrader de 2013 à 2017, c'est pas compliqué, là. C'est next, next, next. Tu le mets à jour, bien, tu vas avoir cette expérience-là. Tu vas avoir tout ce qu'il y a là. OK? Donc, la manière qu'ils fonctionnent, les builds, ils fonctionnent avec des tâches. OK? Donc là, ce build-là, il y a 5 tâches. La première tâche, là, on regarde qu'est-ce qu'on fait quand on compile. Bien, la première affaire, on dit hey, NuGet, va me chercher toutes mes références NuGet. Amène-moi-les. Okay? Après ça, on dit bien, compile ma solution. Puis après qu'elle est compilée, on veut rouler des tests, probablement. Puis après ça, on dit bien, hey, j'ai des symboles que j'aimerais publier. Là, il y a une petite nuance ici, ça dit qu'on peut publier des symboles, mais on publie des symboles nowhere.
Ça, c'est les PDB qui
les
sont.
Les PDB construits. Qu'on voudrait réutiliser, là, tout ça. Sauf que ça les publie nowhere. Parce que. Dans le cloud, actuellement, il n'y a pas un service de symboles. Donc, si on veut les garder, les symboles, il faudrait qu'on publie ça sur une machine locale. Puis pour publier ça sur une machine locale, il faudrait qu'on build local, donc il faudrait qu'on ait un local build server.
Tu ne peux même pas, genre, extraire ça en artefact puis les sortir du build?
Ben, écoute, tu pourrais, quand tu compiles, tu vas compiler, il dit, prends les PDB, puis après ça, il dit où tu veux les mettre. Okay? Mais là, le problème, c'est où tu veux les mettre, tu ne peux pas les mettre nulle part. Il n'y a pas de place dans le cloud pour les mettre. Okay? Fait que là, normalement, tu mettrais, si tu aurais un service qui pourrait agir comme un share Windows, mais dans le cloud, tu pourrais les envoyer là.
OK.
Mais là, ça commence à être un peu compliqué. Là, mais c'est
j'imagine qu'ils vont arriver à faire quelque
chose. Oui,
en
fait, cet été, il a annoncé qu'il va avoir un symbol server dans TFS cet été. OK. Donc, NuGet Restore, ben, il dit prends la solution, restore toutes mes PDB. OK. Puis là, vous voyez ma tâche. J'ai les paramètres de ma tâche à côté. Donc, c'est très clean. Là.
Donc, on n'a même pas nous-mêmes à aller la configurer pour être sûr que ça restaure de bonne manière.
Par défaut, là, il l'a fait pour nous. OK. Puis ça, c'est pourquoi tantôt, quand j'ai choisi ASP.NET que vous avez dit, là, que vous avez vu, c'est parce qu'il met ça pour moi.
Ouais.
OK? Ça, c'est ça qui fait le publish profile, puis il fait le zip file, puis il met toute la patente que j'ai besoin pour publier avec MS Deploy, le site web. Donc, il me rajoute cette ligne-là. Si j'avais choisi Visual Studio, j'aurais eu les mêmes affaires, j'aurais eu le build, mais j'aurais rien eu ici.
Fait que je le connais par cœur. Le target release, puis c'est tout. Ouais,
c'est ça, exact. Fait que là, j'aurais pas eu rien ici. Fait que j'aurais comme, OK, ouais, je sais pas trop, que je vais aller sur l'Internet, me trouver l'affaire. Mais là, il te l'a mis pour toi.
Cool.
OK, c'est pas bien compliqué. Tester les assemblées, bien, j'aimerais ça rouler mes tests. Mais là, on peut voir qu'il y a un petit flag rouge ici. Okay? Le petit flag rouge, ça veut dire qu'il y a une nouvelle version de cette tâche-là. Vous voyez les features que j'ai ici? Je vais choisir la version 2, qui est en preview. Là, on a beaucoup plus de features de tests. Okay? Donc, évidemment, ils rajoutent des nouvelles affaires, eux autres. Puis, spécifiquement, la nouvelle feature qui est killer, c'est qu'on peut rouler des tests d'impact. Okay? Ça veut dire que quand il roule ses tests, il fait un baseline de nos tests, puis c'est stocké là, dans le TRX ou peu importe. Là. Puis après ça, quand il reroule les tests, il dit « Ah, attends une minute, as-tu fait un changement de code? » C'est juste ces deux tests-là qui ont changé. Il va juste exécuter les deux tests. il n'exécutera pas toute
donc,
ta série
de 5 tests. Donc, il est capable d'analyser puis vraiment aller sur les tests des choses qui ont changé.
Il sait exactement qu'est-ce qui a changé puis il va juste rouler ça. Okay?
Ça va accélérer le build puis l'exécution.
Oh, yeah, de beaucoup. Parce que si tu roules 5000 tests, ça prend du temps. Hein? Fait que là, si on est capable de sauver, ben c'est encore mieux. Fait que là, ici, t'avais-tu une question?
Oui. En fait, là, on est sur Visual Studio Test. Beaucoup de gens qui vont être fans, exemple, de Unit. Oui. C'est peut-être un autre build step que tu aurais à la place de celui-là, mais est-ce que ça va le supporter?
T'as même pas ça, parce que si tu utilises Unit puis tu as mis dans ton projet, tu as fait le NuGet puis tu as ajouté Unit, tu n'avais pas le choix de le faire.
Le console exec.
C'est ça. Lui, il utilise vstest.exe, le .console.exe. Mm-hmm. C'est ça qu'il prend, là. Fait que lui, il voit les mêmes affaires, puis il va rouler des tests en unit, ex-unit, n'importe quoi. Là.
Okay.
C'est donc, ça, lui. Parce que,
aucun impact pour la personne qui préfère en unit.
Tu les fais, tu check-in, puis ça va marcher. Là. Okay? Et on n'a pas besoin de rajouter rien. Là, il y a un petit problème, c'est qu'ils ont sorti Visual Studio 2017, mais ils ne l'ont pas installé sur les images de build. Fait que quand on dit « roule tes tests avec Visual Studio 2017 », ça plante. Donc, je vais remettre à 2015, parce que je sais que ça plante. Puis, ça va rouler les mêmes tests, dans le fond, là, okay? Mm-hmm. Mais c'est juste parce que leur image ne contient pas encore Visual Studio 2017. Allô, là, ils ont sorti. Des fois, c'était un peu drôle, là, mais bon.
Ça doit s'en venir pour bientôt, je présume.
Oui, oui, oui. Donc, l'autre chose qu'on veut, c'est du code coverage. Okay? Donc, code coverage, je ne sais pas si toi, tu en as fait du code coverage passé, là, tu commences à être compliqué de faire ça, taper ça. Là. Je fais un petit crochet ici, that's it. C'est juste ce que j'ai à faire, ça fait du code coverage.
Il n'y a plus d'excuses.
Il n'y a plus d'excuses de ne pas en faire, exactement. OK, fait que ça c'est les choix que j'ai faits, okay? Que j'ai changés. Le reste, on ne touche à rien. On laisse tout ça par défaut. On va dire sauvegarder. On va l'appeler Bike 360, qui est notre site. Et puis, on va juste faire OK là-dessus. Donc là, il sauvegarde notre affaire. Là, je vous parlais des tâches. Il y en a 5 ici. Okay? Je peux cliquer sur ce bouton-là. Puis là, on va voir, je vais choisir All. Là, il y a un catalogue de tâches qui sont déjà avec le produit. Okay? Donc, je vais juste scroller là, pour vous montrer. On n'arrêtera pas trop, là, mais... pour vous montrer le choix. Là. Il y a à peu près une centaine de tâches là, différentes. Rouler du PowerShell, exécuter du Service Fabric, déployer des tests manuels, copier des fichiers, rouler du Xamarin. Si on retourne en haut, on a copier des fichiers. On va rouler des command line, des CMD. On a déployé dans Azure, etc. Okay? Donc, on a un gros paquet de tâches. Puis quand on en veut une, je vais prendre par exemple PowerShell. Je la mets ici, je fais clic dessus, puis là, elle apparaît ici. Je peux reprendre ma tâche, je peux la bouger où je veux. Okay? Donc, par exemple, si en début, j'aimerais ça exécuter une PowerShell qui va changer mon numéro de version dans mes fichiers, mettons. Bien, je pourrais juste le prendre. Puis là, il me dit, il est où le script en question. Donc ça, c'est une autre discussion pour vous dire que c'est bien important, quand on crée notre projet, qu'on met aussi tous les artefacts qui vont avec le projet, incluant les scripts de build, incluant les scripts de déploiement, incluant tout ce qu'on a de besoin pour un projet, là, on le met dans notre solution. Comme ça, après ça, il est dans le build, on peut juste faire 3 petits points, puis il va nous amener notre repo, puis on peut juste le choisir. Puis ça, ce que ça fait après, c'est que quand il arrive sur le build server, bien, il sait où le fichier, puis c'est celle-là qui exécute. Okay? Fait que, il prend notre PowerShell, puis après ça, il passerait des arguments, moins machin, qu'on voudrait. Okay? Donc, je vais juste l'enlever parce qu'on n'a pas besoin. Donc, ensuite, si on regarde les options qu'on a, on peut rouler en multi-configuration. Ça voudrait dire que si, je pourrais rouler debug, release en même temps. Fait qu'il va les faire en parallèle, puis je vais avoir mes deux folders avec les affaires que j'ai de besoin. Je pourrais créer un thème de travail quand ça fail, ce que je ne veux pas, puis c'est pour ça qu'il n'est pas là par défaut, là, parce que sinon, ça fait des affaires à qui mieux. Ensuite, je pourrais envoyer pour se loguer avec OAuth dans TFS. Fait que si j'ai besoin d'envoyer ça à une script, puis la script, elle a fait quelque chose, puis elle a besoin de parler à TFS, mettons au API de TFS ou quelque chose, bien là, j'ai un problème parce qu'il faut que je me logue, mais là, je suis dans le script, je suis plus capable de me loguer. Fait que là, je peux lui dire, passe les tokens OAuth, puis après ça, quand il est dans la script, j'utilise le token OAuth pour reparler au serveur. OK? Donc, ça, c'est des cas limites assez compliqués. Le repository, c'est ce qu'on voyait tantôt quand on a choisi. Label les sources, bon, checkout sur module s'il y en avait, tout ça. Les variables, ça, c'est intéressant parce qu'on peut créer des variables qu'on va passer à notre build. OK? OK, donc si on avait des PowerShell, par exemple, puis on aurait des variables qu'on voudrait changer, on pourrait les mettre ici, ça serait clean, on les verrait au lieu de les mettre sur la ligne de commande, mettons.
Tu peux paramétrer tes builds comme dans certains clients. Nous autres, on fait un build, mettons, démo qui a un watermark dessus. Ouais. Fait que c'est dans le build, fait qu'on aurait un build qu'on pourrait mettre un paramètre. Pour ce build-là, c'est un build démo qui va avoir le watermark.
Exactement. Exemple. Puis là, vous voyez ici un petit lien là, qui est super intéressant. Ça, ça ouvre une page, puis ça nous donne accès à qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Mais surtout, la liste de toutes les variables qui sont « built-in ». Donc, on a besoin, par exemple, de savoir le numéro de build quand on est dans notre script, où on veut passer notre build number. Bien, le build number, là, il est ici. Ça, c'est, tu mets « $ » entre parenthèses, tu écris ça. Ça, c'est le build number que tu lui donnes. Là, dans ta script, bien, évidemment, tu peux y passer cette valeur-là d'ici du build. Mais là, tu te mets ça dans le build. Tu sais comment aller la chercher. Automatiquement, le build, il fait une variable d'environnement qui s'appelle ça. Fait que dans ta script PowerShell, tu pourrais faire $env2. Ça, puis tu vas avoir la valeur aussi. Okay. Puis tu n'as pas besoin d'y passer à la script, dans le fond. Okay. Fait que c'est comme tu as deux modes. Mais ici, on les voit, là, toutes les affaires, les noms de serveurs, les noms de l'agent, qui sont où les sources. Tu sais, tu as tout plein d'affaires. Mm. Fait que si des fois, on est là, j'aimerais ça passer comme le source path à ma script, mais c'est quoi le source path? Je ne sais pas. Tu sais, bien, c'est là qu'on le verrait. Ensuite, les triggers, on parle d'intégration continue. On s'en souvient, intégration continue, on clique là-dessus. On dit à chaque fois qu'il y a un changement dans master, ben il part un bit. Okay? C'est aussi simple que faire un petit crochet ici, puis on continue.
Général... On n'a pas eu, moi je pense à exemple, quand nous on utilise beaucoup de Jenkins pour tout ce qui est intégration continue. Configurer ça, des fois, c'est pas toujours...
Un hook, ça te prend un listener de l'autre côté.
Ça prend pas mal de choses. C'est pas un crochet, là.
Ouais.
Là, tu viens de me dire qu'en deux secondes, je viens de le setter.
C'est ça, il est setté. T'as rien à faire. Ici, on a notre numéro de build. Donc, par défaut, il va mettre la date, point la révision. OK? La révision étant demain, il va recommencer à 1, là, mais toutes les builds d'aujourd'hui, ça va être point 1, puis ça va juste continuer. OK? Finalement, la rétention, ben c'est combien de temps on veut garder nos builds, les 10 derniers, le nombre de jours, etc. Puis finalement, ça, c'est super important. Ça nous donne un historique. Fait que je vais faire sauvegarde ici, là, de mon affaire, parce que je l'ai mis en CI, là, okay, qui n'était pas. Fait que là, j'ai fait la nouvelle définition, puis là, je l'ai modifié, j'ai mis CI maintenant. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire une diff là-dessus, puis ça nous dit, ben j'ai rajouté un trigger qui était CI. Mm. OK? Fait que là, on est capable de voir c'est quoi les changements, mais surtout, on est capable de... Je vais revenir. On est capable de voir c'est qui l'a fait puis quand. Parce que quand on était dans les builds XAML, là, le monde changeait des patentes, puis là, sauvegarde, puis tout d'un coup, le build ne marche plus. Là, on ne sait pas ce qui est arrivé. OK? Puis l'autre chose qu'on peut faire qui est le fun, c'est qu'on peut faire un rollback. OK? Donc, on est capable de ramener la définition à avant que ça marchait, là, puis on l'amène là, puis on continue. Okay? Donc, tout ça, c'est des nouvelles affaires dans 2017 puis on-prem. Donc là, je vais queuer un build. Okay? Donc, si vous vous souvenez, dans les variables ici, j'avais le choix. Je vais juste revenir en arrière deux secondes. Donc, dans les variables, ici, il y a un petit crochet. Okay? Ça dit que j'aimerais ça le voir quand je vais queuer. Donc, si vous avez des variables que vous voulez changer, vous faites juste cocher, puis on va les voir.
OK? Pour build time,
c'est ça. Okay. Fait que là, moi, je vais faire build. Puis ce qui est le fun ici, c'est qu'on a, une explication, en tout cas, on a un mode là, qu'on voit exactement tout ce qui s'est passé. Donc là, je suis sur les agents de build hostés, ce qu'il avait fait par défaut. Et puis là, il attend que l'agent lui parle. Là, okay? Fait que là, il est comme en mode j'attends. Là. Ouais. Donc là, on peut voir que le build, dans le fond, il attendait, là, puis il est parti relativement vite. On voit... que ça fait 45 secondes, il a presque fini. Il est en train de rouler nos tests. Mm-hmm. Okay? Donc, il roule les tests, il publie les symboles nulle part. On voit qu'il est publié, puis là, finalement, il va faire son clean-up. Et puis, le build est fini. Okay? Donc là, on voit une belle grosse barre verte. C'est comme, yeah, la vie est belle, on est heureux là-dessus. Là, je vais revenir ici. Ça, c'est notre rapport de build. Okay? Donc, on voit la définition, on voit que ça a buildé master, on voit le commit qui a été buildé, qui l'a requis, QA, bon, toutes ces choses-là. On voit qu'il n'y a pas la bonne version de Visual Studio pour builder, ça, c'est pas bien grave. Tous les changements qui ont été associés avec ce build-là, donc tous les changements que Donovan avait fait. Puis ici, on voit tous les résultats de tests. Donc, il roule 3 tests dans ce cas-là, sont successful. Il est 100% de passé. Puis là, on voit le pourcentage de notre code coverage. Il n'y a pas beaucoup de code coverage, ça a bien de l'air. Donc, ça nous donne quand même là, ouais, la vue d'ensemble.
Le dashboard de ce que c'est.
Exact. Puis on peut aller, donc, si je clique le build encore ici, dans build, on peut voir qu'on a le résultat du build, donc toutes les affaires qui sont arrivées. On est capable d'aller vérifier là, ah, pourquoi il n'a pas pris ça? Il a-tu pris le maudit NuGet que je.
Ouais.
Il n'a pas pris le bon, machin. On est aussi capable d'aller sur une ligne. Puis d'aller voir juste ça, là, le log de ça. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est. Je sais pas si tu avais vu.
Pour naviguer dans un log immense, c'est plus facile.
Je sais pas si tu avais vu les logs des builds AML. Des fois, là, tu n'étais plus capable de regarder dedans. Il était trop grand, puis ouais, ça bostait. Fait que là, ça marche super bien. Là. C'est super solide. Ouais. On peut dire, je veux garder le build pour toujours. Mais quand on va faire des releases, un peu plus tard, quand on choisit un release, puis on prend un build pour le releaser, il va se faire mettre à hey, détruis-le pas, là, parce que tu l'as releasé. Là. Ouais. Donc, j'en ai besoin. OK? Fait que, puis un exemple de nouvelles affaires que Microsoft fait, OK? Ils ont changé l'expérience de build. OK? Donc là, ils disent au monde, là, hey, l'expérience de build est nouvelle. Est-ce que tu veux essayer la nouvelle? Donc tu peux dire try it now. Il va changer tout le UI. Tu sais, tantôt, je parlais de A-B testing. Il va changer tout le UI pour le nouveau UI. OK? De l'interface de build. Ce que je n'ai pas fait parce que c'est pas le but de ça. Puis je peux lui dire, non, je ne veux pas changer pour l'instant, laisse-moi aller là. Mais tu peux toujours opter in ou out des nouvelles expériences.
Okay? Les autres, ça donne des métriques sur combien de personnes l'adoptent, puis le gardent, puis ils reviennent en arrière.
Exactement. Exactement. Fait que ça leur donne des métriques de plus. Donc, si on voit, ça, c'est essentiellement le build. Si je reviens au root, par exemple, je vais voir tout un dashboard, dans le fond, la dernière fois que ça a roulé, le pass rate, ça se promène-tu, bon, tout ça. Donc, j'ai un petit dashboard là. Et puis, ben, dans le fond, c'est quoi le dernier statut? Et puis, ben, la définition du build. Si je clique sur ma définition, je vais revenir à un sommaire des derniers. C'est comme le sommaire de ce build-là. Mm-hmm. Comme littéralement, là, je suis vraiment ici. Je peux éditer maintenant mon build ici. Puis là, il va rentrer dans l'éditeur là, qu'on était tantôt là, pour ouais. faire ça. Fait que ça, c'est pas mal l'expérience de build, puis ça nous donne un peu... Là,
écoute, avec pratiquement aucun effort, c'est juste mm-hmm. clic, next, 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 pratiquement une couple d'options personnalisées que tu veux choisir, puis tu as un build live qui est en continu. Là, en ce moment, j'ai vu que tu l'as mis en continu, donc yes. si tu faisais un changement de code, tu repousserais ça, ça repartirait ton build, les tests seraient roulés, tu aurais un nouveau résultat
tout
et tu serais tout ouais. live avec ça.
Et ça vaut la peine de le rappeler, gratuitement.
Gratuitement.
Ouais. Gratuitement, il n'y a pas beaucoup de temps. Parce que même souvent, ouais. on dit gratuit, mais ça prend 10 heures si c'était quelque chose en place.
Exact.
Là, ça a pris quelques minutes. On l'a mis en place. Fait que c'est vraiment un gratuit qui ne coûte pas cher à l'employé non plus.
On a parlé beaucoup plus que le temps que ça a pris de faire les affaires.
Tout à fait.
puis une dernière chose que je ne vous ai pas vraiment montré, mais qui est un peu peut-être intéressant aussi, c'est que vous ne m'avez pas demandé, ce qui était drôle, c'est il est où le build? Là? Ça a buildé le site, mais il est où cette affaire-là? Là?
Oui, une bonne question.
Effectivement.
On s'est laissé emporter par le build, mais l'output de ça, il s'en va quelque part.
Donc, quand on est dans le build comme tel, il y a une affaire qui s'appelle Artifacts, où on voit le drop. Donc, je peux downloader mon build. Okay? Ça, là, ça veut dire qu'il est stocké sur TFS quelque part. Mm-hmm. Okay? Puis, c'est pas ton problème. L'espace, c'est pas ton problème.
Est-ce que ça suit la politique de rétention?
Oui.
Donc, si tu as une rétention des 10 derniers builds, après les 10 derniers, il va effacer les derniers drops.
Absolument. Oui, ça va le faire. Mais ce qui est le fun ici, c'est que tu peux faire « Explore ». Puis quand je fais « Explore », puis que j'ouvre la chose, je vois le résultat de mon build, donc je vois tous les fichiers qui font partie de mon build. Si on parlait du site web, là, ben le site web, ben c'est un zip. Okay? Mm-hmm. Le MS Build, c'est un zip. Mm-hmm. Puis il nous produit le parameter file qu'on a besoin pour déployer, ouais. puis le command line, dans le fond, qu'on a besoin pour déployer. Okay? Donc, puis tantôt, la prochaine fois qu'on va parler des releases, ben, on va parler de comment faire là, des sites web avec ARM. Ben, il y a même une template ARM qui est déjà toute là pour nous autres là, pour s'en servir. Fait qu'on va parler de ça quand on va parler des releases.
Super.
Excellent. Okay? Merci.
Good job.
Donc là, Étienne, ça fait le tour pour notre épisode d'aujourd'hui. Ce qu'on a vu dans le fond, c'est qu'avec TFS, VSTS, on a été capable de facilement, ben, on s'est créé notre compte évidemment, puis on est allé de l'avant pour se mettre un build en quelques clics, quelques minutes à peine.
C'est ça.
Quelque chose de très facile, je pense, pour la majorité des développeurs aujourd'hui.
Et sans oublier gratuit.
Gratuit, qui est un élément clé, génial. Oui. Mm-hmm. Donc,
il n'y a pas de frustré, tu sais, ça marche avec Git, ça marche avec TFSVC,
ça en a pour plein de monde qui ont déjà des projets. Mm-hmm. Donc là, la prochaine étape qu'on voudrait voir après ça, ce serait de voir comment on va aller plus loin avec ça, donc aller déployer ça, aller voir le résultat de ce build-là. Mm-hmm. Mais ça, on va vous garder ça pour un prochain épisode. Aujourd'hui, ça conclut notre épisode. Donc, si vous voulez être notifié du prochain épisode, justement, quand il va sortir, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, puis n'oubliez pas de rajouter la notification. Le mot de la fin?
Le mot de la fin, c'est à suivre, tout simplement, dans le prochain épisode. Merci.
Merci.